Nous sommes à Londres en 1908. La capitale britannique accueille la 4e Olympiade. Des jeux qui vont marquer l'histoire parce que plusieurs innovations y auront lieu. Elles sont toujours d'application aujourd'hui. Les Jeux de 1908 ne devaient pas avoir lieu à Londres, mais à Rome. Que s'est-il passé? Un drame. Un drame oublié. En avril 1906, le Vésuve entre en éruption. Plus de 200 morts, 30 000 blessés, 150 000 personnes déplacées dans la baie de Naples. Dans ce contexte, Rome renonce aux JO qui lui avaient été attribués. Réuni en urgence, le CIO attribue les Jeux à Londres, qui va réussir une organisation sans faille en un temps record. Avec la construction d'un nouveau stade, le White City Stadium, disparu aujourd'hui mais qui fut l'épicentre des Jeux. Il était situé dans l'ouest londonien, à Fulham, pas bien loin de Chelsea, sur la route du château de Windsor, dont il était distant de 42,195 km exactement. Ce chiffre vous dit quelque chose, non? C'est encore aujourd'hui la longueur très précise de l'épreuve du marathon, et c'est bien aux Jeux de Londres que la distance fut établie. Et ce, pour pas mettre le départ de la fameuse course juste devant la résidence royale, dans le jardin en somme du roi Édouard VII et de sa famille, avec l'arrivée, bien sûr, dans le nouveau stade construit pour les Jeux Olympiques. Ce marathon se déroula mieux que 4 ans auparavant, où les concurrents avaient frôlé la déshydratation et où celui qui s'était présenté le premier dans le stade avait été disqualifié pour avoir fait la moitié du parcours en voiture. Mais son arrivée fut tout de même épique et polémique. Cette fois, avec 26 degrés, les conditions climatiques pour un marathon sont bonnes, comparées aux 32 degrés et 90% d'humidité de Saint-Louis 4 ans auparavant. Parmi les participants, il y a pour la première fois un Belge, François Sélis, mais il ne terminera pas la course. Il ne sera pas le seul d'ailleurs. Seuls 27 des 55 athlètes de ce marathon de Londres rallieront le White City Stadium, soit un sur deux. La course est passionnante, mouvementée, et c'est l'Italien Dorando Pietri qui pénètre le premier dans le stade. Mais à 300 mètres de la ligne, il s'effondre. Tout le stade hurle pour qu'il se relève, ce qu'il fait, mais il retombe. Alors, ceux qui sont en bord de piste, l'aident, le soulèvent et vacillant, soutenu par des dizaines de bras, y compris par ceux d'arbitre, Pietri, qui n'a par ailleurs demandé l'aide de personne, passe l'arrivée sous les vivats de la foule. Mais voilà que moins d'une minute plus tard se présente l'Américain Hayes, qui lui franchit la ligne sans l'aide de personne. Alors, les Américains déposent réclamation. Le jury délibère et finit par disqualifier l'Italien pour avoir reçu une aide extérieure, même s'il ne l'avait pas demandé. On demande à l'Américain, nouveau champion olympique, de faire un tour d'honneur qui va pour lui s'apparenter à un chemin de croix. Car la foule a pris parti pour le rival malheureux, à l'image de la reine en personne qui va, à titre personnel, lui remettre solennellement une magnifique coupe. L'incident est révélateur. Ces Jeux de Londres sont dominés par une forte rivalité entre Britanniques et Américains. Et il faut reconnaître que ces derniers ne sont pas toujours très fair-play. Exemple, finale du 400 mètres. Le Britannique Halswell fait face à 3 Américains. L'un d'entre eux a pris la tête. Mais quand Halswell veut le dépasser, un Américain l'en empêche en faisant un écart. On imagine l'ambiance dans le stade. Les Britanniques déposent plainte. Les Américains expliquent que chez eux, courir ainsi, c'est-à-dire faire des écarts, est autorisé. Finalement, on décide de disqualifier l'Américain fautif et de recourir la course. Mais les autres Américains refusent de le faire. Résultat, Halswell va courir seul ce second 400 mètres. Après cet incident, le CIO va décider de tracer des couloirs sur la piste, couloirs qui sont toujours en vigueur aujourd'hui. Cette rivalité américano-britannique, elle est en fait nourrie par une innovation de ces Jeux de Londres, le classement des médailles olympiques par pays. Ce qui confère un prestige évident au premier d'entre eux. Quant au parcours, l'histoire des Jeux, c'est le plus souvent les États-Unis d'Amérique qui l'emportent. Seuls 3 autres pays ont réussi à leur ravir la première place. La Chine, c'était en 2008 à Pékin, l'Union soviétique à 6 reprises, et puis la Grande-Bretagne en 1908. Les Américains, qui pensaient l'emporter facilement, se sont heurtés à l'orgueil britannique. N'oublions pas d'ailleurs qu'avant la Première Guerre mondiale, il existe une réelle tension entre ces deux nations. Il y a d'un côté l'Empire britannique, la plus grande puissance du monde, et de l'autre, une puissance émergente, dirait-on aujourd'hui, qui est aussi une ancienne colonie britannique et qui a réussi à gagner son indépendance grâce à la France, qui fait figure d'allié naturel de l'Amérique. D'autant que Français et Américains ont aussi en commun d'être des républiques, ce qui est encore rare à l'époque. Ces Jeux de Londres consacrent donc la domination britannique dans une compétition plutôt réussie avec 2000 participants à comparer aux 500 de Saint-Louis 4 ans plus tôt. Avec une autre importante nouveauté, une cérémonie d'ouverture avec le défilé des participants par pays dans le stade et une cérémonie de clôture. Particularité, ouverture et clôture entourent ce qu'on appelle les Jeux d'été en juillet, avec les compétitions les plus prestigieuses comme l'athlétisme, l'escrime ou la natation pour la première fois en piscine et plus en mer ou en rivière. Mais ils sont précédés des Jeux de printemps avec le tennis et le polo, suivis des Jeux nautiques, voile, aviron, puis des Jeux d'hiver avec le hockey, le foot ou le rugby, mais aussi pour la première fois, le patinage artistique. Au classement des médailles, on l'a dit, les Britanniques l'emportent sur les Américains. À la troisième place, on trouve les Suédois, qui organiseront les Jeux suivants en 1912, mais ça, c'est une autre histoire.